Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui. D'actuel.
Et lui.
Bonjour à tous et bienvenue sur 48 FM pour ce quatrième numéro d'Actuel et lui. Au programme aujourd'hui, différents sujets. Anne-Marie, tu vas nous parler de quoi? D'abord, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour Aurélie, et puis bonjour chers amis auditeurs.
Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler musique avec des sorties, donc CD. Alors, on verra ma sélection tout à l'heure.
Aurélie, tu vas nous parler de quoi?
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je vais vous parler de peste et choléra.
Ah bah dis donc, ça sent la médecine, tout ça. Et puis, moi, je vais vous parler de lasagne. Alors, c'est vrai que ça a été dans l'actualité. Et en plus, il y a des bonnes odeurs dans ce studio grâce à Aurélie. Donc, on va pouvoir...
Bah, qui n'émane pas d'Aurélie. Non, hein. Il faut bien préciser que les odeurs émanent de ce que tu nous as préparé à manger.
On commence un challenge thématique. Chacun devra amener sa meilleure recette de lasagne.
C'est pas ton déo qui sent de lasagne, hein. Précisons-le pour les amis auditeurs.
Bien, voilà, vous voyez, l'émission est bien partie, ça va être comme ça.
Ça va être assez drôle, oui.
Je pense que ça va être assez chargé aujourd'hui. Mais justement, peut-être pour calmer un petit peu l'ambiance, je vous propose de parler de peste et de choléra, ça va peut-être un peu nous calmer, non?
Bon, alors, je vous rassure tout de suite, on ne fait pas sonner les signaux d'alerte de veille sanitaire, aucune épidémie meurtrière ne se prépare à Mende. Au contraire, ça commence comme ça. Dernier jour de mai 1940, aéroport du Bourget, une petite baleine blanche d'Air France décolle avec ses 12 passagers, destination Indochine, via Marseille. À son bord, un homme de 73 ans s'apprête à rentrer chez lui à Nan Tran, en Indochine. Les Allemands sont aux portes de Paris. Ce sera le dernier vol régulier d'Air France avant la fin de la guerre. Mais qui est donc cet homme, presque chauve, à la barbe blanche, aux yeux bleus comme ceux de son père spirituel, le grand pasteur? Alors c'est Alexandre Yersin. C'est son nom. Vous n'en avez jamais entendu parler. D'accord, d'accord. Mais Yersinia pertussis, ça vous dit quelque chose? Le bacille de la peste, isolé par ses soins? Encore moins. Oui, moi non plus, en fait.
Et pourquoi tu nous parles de ce livre aujourd'hui, alors, Aurélie?
En fait, l'idée n'est pas de moi, j'avoue. C'est un clin d'œil à l'association des amis de la bibliothèque Lamartine. Peut-être ne le savez-vous pas, mais cette association et la bibliothèque municipale proposent des idées de lecture et des après-midi rencontres autour d'une œuvre. Et donc, ce jeudi... tout le monde peut y participer pour entendre ou parler de ce livre à 14h30, donc jeudi 21.
Aujourd'hui, donc. Vous l'aurez compris, cette émission est enregistrée.
Est enregistrée comme d'habitude. Et donc, on n'y arrive pas, on a des petits repères spatio-temporels problématiques. Donc, c'est le livre « Peste et choléra » de Patrick Deville.
Mais d'ailleurs, la bibliothèque propose ça, je crois, tous les mois. En fait, il y a des rencontres avec des auteurs...
Oui, une fois par mois, effectivement. Alors, on a le programme un trimestre à l'avance pour avoir le temps de lire un petit peu. Donc, c'est ce qui s'est passé pour ce premier trimestre où j'ai lu « Peste et choléra » de Patrick Deville.
Mais c'est une biographie, en fait?
Oui, effectivement, c'est une biographie romancée de la vie d'Alexandre Yersin. Évidemment, je me doute qu'à part les scientifiques, ils sont peu nombreux qui connaissent ce nom. Et pourtant, on devrait. Alexandre Yersin est chercheur à l'Institut Pasteur. Il est né dans le canton suisse de Vaud en 1863 et est mort 80 ans plus tard à Nan Tran dans l'actuel Vietnam, alors Indochine française. Et Alexandre Yersin avait tout pour fasciner un romancier, et nous aussi.
Alors, donc dis-nous en plus sur ce chercheur et pourquoi sa vie est-elle si fascinante?
Alors, Alexandre Yersin n'est pas du genre à tenir en place. Loin d'être hyperactif, il est en tout cas super intelligent. C'est un touche-à-tout scientifique, éminent découvreur du bacille de la peste et qui ne s'est jamais contenté d'une place honorifique auprès du grand pasteur, son mentor à Paris ou ailleurs. Selon le vieil adage populaire, la vie est courte, profitons-en. Donc, c'est pas seulement une vie, mais la traversée de 8 décennies à cheval sur 2 siècles, bouleversé par 3 guerres entre 2 nations que l'auteur décrit. À travers d'ailleurs le prisme, en fait, de l'affrontement entre les partisans de Pasteur et ceux de Koch. Mais si, vous le connaissez, Koch, le bacille de Koch, responsable de la tuberculose. On reçoit tous toujours le BCG. Et donc,
ça te dit quelque chose, Guillaume?
Voilà,
tout de suite, là, tu nous éclaires beaucoup.
Mais si, et bien donc, l'Institut Koch, ce sont les Allemands, l'Institut Pasteur, les Français. Et évidemment, pendant tout le roman, ils essayent d'étendre chacun leur influence sur le monde. Donc Alexandre Yersin n'a eu cesse de connaître plusieurs existences. Lui, par contre, il évite les zones de conflit. Il a de la chance quand même. La politique ne fait pas partie de ses trucs, c'est ce qu'il dit. Il est biologiste, médecin des messageries maritimes, donc embarqué sur un bateau qui fait la navette dans la mer de Chine. Bactériologiste, microbiologiste, explorateur à 16 heures, initiateur du caoutchouc. En fait, c'est un fan de voitures déjà à l'époque. Et un petit clin d'œil d'une boisson gazeuse sucrée qui a donné les couleurs du Père Noël. Ça vous parle ? Il découvre un petit coin de paradis à Nan Tran, en Indochine française, et fonde en fait une station thermale très, très, très courue là-bas, à Dalat.
Et donc, c'est une vie de voyage extraordinaire, donc de découverte. Tu nous as parlé de l'usage de la quinine, donc l'ancêtre du Coca-Cola. Et puis aussi du caoutchouc industriel, mais tu nous parles pas de sa vie sentimentale, de sa vie familiale.
Est-ce qu'il y en a une déjà, parce que
eh ben, il en a fait, eu le temps. Oui, tout le passionne. Il y a juste deux choses, la politique, la sale politique, il dit, et l'art. Mais du point de vue perso, il semble peu enclin aux relations féminines autres que filiales ou fraternelles. Il entretient de nombreuses correspondances avec sa mère, Fanny, ou avec sa sœur Émilie, mais par contre, pas tellement avec le reste de sa famille ou d'autres. En fait, Alexandre s'entoure de garçons, partage avec eux son savoir, on les voit en filigrane tout au long du roman, mais peut-être plus, ça, on ne sait pas. Il est parfois présenté comme un misanthrope, mais je ne suis pas tellement d'accord avec cette hypothèse. Il ne recherche pas la compagnie des autres, c'est vrai, il passe de longs mois dans les montagnes, mais il est attiré par d'autres cultures, des peuplades inconnues. C'est lui qui va notamment explorer une partie du Vietnam, quoi, de l'Indochine française. Et il est toujours à l'écoute de son prochain, surtout quand ce dernier demande de l'aide. Par exemple, dès qu'il y a une pandémie, les autres membres de l'Institut Pasteur, donc Pasteur lui-même, Calmette ou Roux, en fait, lui demandent de venir. Et toujours, homme d'honneur et aux convictions fidèles, il arrive, et il méritait bien cette belle biographie, en fait, de Patrick Deville.
Et donc, c'est Patrick Deville qui a écrit ce livre.
Oui, alors, il est lui-même voyageur, esprit cosmopolite, diplômé en littérature française et comparée, en philosophie. Il est né en 1957. Il devient attaché culturel dans le golfe persique, avant d'enseigner à l'étranger et d'entamer une série de voyages, de l'Algérie au Nigeria, en passant par Cuba. Il est aujourd'hui le directeur de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs à Saint-Nazaire. Il signe désormais de nombreux ouvrages qui expriment sa passion pour les voyages, la géographie et l'histoire. Et donc, pour raconter cette formidable aventure scientifique et humaine, déjà prix du roman Fnac 2012, il a suivi les traces de son héros tout au long du monde, enfin partout dans le monde. Et il s'est aussi plongé dans les milliers de lettres échangées par la bande des pasteuriens et conservées aux archives des instituts Pasteur.
Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce roman ?
Alors, je dois bien avouer qu'au départ, c'était un petit peu mitigé. Parce qu'en fait, le style m'a surprise et de façon assez désagréable. C'est un style haché, avec des phrases sans verbe. Je m'attendais aussi à une biographie romancée, classique, avec du romanesque, des dialogues, des sentiments, la vie, quoi. Mais au lieu de ça, c'est un récit très factuel, dénué d'émotions. Il faut vraiment un temps d'adaptation pour être sous le charme. Mais ça vaut le coup. Parfois de sortir des sentiers battus, que ce soit en tant que savant ou romancier, puisque dès qu'on a passé quelques pages, ce style finit par apprivoiser. Et toute résistance s'évanouit. Je me suis vraiment laissée porter par les mots. J'ai trouvé certains passages d'une incroyable beauté. J'ai eu la surprise de rencontrer quelques lignes pleines d'humour, encourageant l'imagination du lecteur à se créer des scènes d'un burlesque qui, pour ma part, m'a parfois fait rire. Comme par exemple, à un moment, l'auteur évoque, alors je vous cite, ce dictateur en noir et gris qui imite très bien Chaplin. Vous voyez tout de suite à qui il fait référence. Finalement, j'ai bien compris que l'écriture de Patrick Deville reflétait bien le personnage d'Alexandre Yersin. En fait, pourquoi faire du romanesque, du sentimental, alors que Yersin est un scientifique dévoué à son travail, qui ignore visiblement les choses du cœur et de l'art. Il ne fait pas dans le sentimentalisme, donc il n'y avait pas de raison d'en faire autant dans le roman. J'ai fini par dévorer ce roman et je l'ai terminé assez fascinée par ce personnage. Et j'étais d'ailleurs un peu choquée d'apprendre qu'il n'a par exemple jamais eu de prix Nobel et l'histoire semble l'avoir un peu oublié.
Et par contre, ce roman a donc obtenu le prix Femina en 2012 ?
Oui, effectivement, il a obtenu le prix Femina et Patrick Deville était également en lice pour le Goncourt et le Renaudot. D'ailleurs, une autre petite info prix littéraire. Le prix Femina étranger a été attribué à l'américaine Julie Otsuka. Pour certaines, n'avait jamais vu la mer. Un roman bouleversant sur l'exil de ces milliers de jeunes japonaises parties au début du siècle, épouser leurs compatriotes déjà installés en Californie. Alors pourquoi je vous parle de ce roman ? Parce que, encore un petit clin d'œil à la bibliothèque Lamartine, ça faisait partie du programme de ce trimestre d'ouvrages. Donc vous voyez, elles,
décidément,
elles ont fait dans le prix Femina, effectivement.
Pourquoi ? Et c'est que des femmes qui participent à ces ateliers ? C'est,
elles sont nombreuses, en fait, dans l'association, elles sont majoritaires. Mais non, il y a quand même des hommes. Et tous les hommes sont invités à participer, à venir donner leur avis.
Voilà. Comme toi, Guillaume, voilà, si tu as envie cet après-midi.
Ouais, mais le problème, c'est que j'ai déjà en retard les 50 nuances de Grey.
Encore ?
J'ai toujours pas attaqué...
T'es pas un bon lecteur, là !
J'ai toujours pas attaqué Nicolas Le Floch, donc...
Non, mais on pourrait peut-être leur proposer de parler de 50 nuances de Grey, et puis tu iras
et là,
donner ton avis.
Et là, il y aura un petit peu plus de monde,
c'est un monde fou.
Bien, mais alors le prix Femina, c'est pas la seule raison pour laquelle on parle de peste et de choléra.
Non, effectivement, vous êtes bien informés parce que dans l'actu actuellement, il y a une polémique qui a enflé. Donc en 1985, Henri Mollaret et Jacqueline Brosselette, en fait, éditent chez Fayard Alexandre Yersin ou Le vainqueur de la peste, donc un autre ouvrage. Et l'affaire commence quand Olivier Brosselette, le fils de l'auteur, ils sont décédés tous les deux, découvre que Peste et choléra ne mentionne même pas l'existence de l'ouvrage de 1985. Donc il dit quand même, bon, il fait observer cette omission au seuil et à l'auteur en souhaitant simplement qu'un complément soit apporté dans les remerciements, par exemple lors d'un futur tirage. Mais là,
donc ça a créé un scandale.
Un peu, ouais. C'était quand même pas très élégant, mais surtout devant le silence de l'auteur et de la maison d'édition qui ont refusé, en fait, qui n'ont même pas répondu à ses demandes, Olivier Brosselette a prolongé son analyse et il recense des analogies, des correspondances entre les deux ouvrages. Alors, c'est rapporté, je vous le dis tout de suite, par Slate.fr. Je cite mes sources, hein, parce que vous avez bien compris que c'était ça le nœud de la polémique. Donc, il a relevé une soixantaine de correspondances entre les deux livres et une progression parallèle des phrases clés. Il a relevé d'autres emprunts, comme par exemple les parallèles qui sont souvent établis entre Yersin et Loti. Donc à ce stade, toute la question est de savoir si Patrick Deville a nourri son inspiration de l'ouvrage de 85 ou si au contraire, il a décrypté toute la correspondance d'Yersin à son tour. Il y a quand même plus de on parle là de milliers de lettres manuscrites, donc vous imaginez. Le fait est que Patrick Deville les a consultées. D'ailleurs, le responsable du service des archives de l'Institut Pasteur l'a confirmé. Et interrogé sur ce point, sur BiblioOps, le site littéraire du Nouvel Ops, il dit en fait, en quelques phrases, « Évidemment, j'ai essayé de tout lire. Ensuite, j'ai pu consulter toutes les archives de l'Institut Pasteur. Alors, je n'ai pas vérifié, mais il est très possible qu'on trouve chez moi des phrases de Yersin citées dans la biographie de Mollaret et Brosselette, puisqu'ils avaient choisi des phrases capitales. » Bon, on peut entendre cet argument, mais ça ne répond pas vraiment à la question de savoir si l'auteur a recopié des extraits qu'il reprend dans la correspondance d'Yersin, en fait.
Et alors, plagiat ou pas ?
Eh bien, je vous laisse vous faire votre opinion, mais je vous apporte une petite précision. L'ouvrage signé Mollaret et Brosselette ne comprend pas toujours une transcription exacte de la correspondance originale. En fait, les feux auteurs ont commis quelques petites erreurs dans leur travail, parfois dues à l'écriture manuscrite, des lettres qui ont été conservées plus d'un siècle. Or, ces erreurs, on les retrouve également dans Peste et choléra. Donc CQFD, je vous laisse deviner, vous faire votre opinion. Il semble bien en tout cas que Patrick Deville ait amplement consulté ce livre et qu'il en ait reproduit des passages. Tout ceci, en tout cas, enrichira les discussions infinies sur ce qu'est un roman biographique, ce qui ne l'est pas, où commence la fiction, quelle est la frontière entre l'inspiration et l'emprunt, entre l'emprunt et le copier-coller. Et faut-il écrire dans le marbre des règles qui s'imposent à tous dans ces matières ou bien postuler que le savoir-vivre suffira ?
C'est presque un sujet de philo pour le bac dans quelques semaines. Mais bon, peut-être une proposition aussi pour des prochaines rencontres autour du livre de nos amis de la bibliothèque.
Eh bien oui, pourquoi pas. Mais, dans leur programme, il y a déjà pas mal de quoi faire. Alors justement, je vais vous raconter moi ce que j'ai retenu là pour les prochaines semaines.
Ah, tu leur fais de la pub là.
Ah, je leur fais de la pub. Moi, je trouve notamment, il y a un truc super dont je veux vous parler. Donc le jeudi 11 avril... a lieu la prochaine rencontre, donc à 14h30 autour du livre.
La prochaine, c'est cet après-midi sur celui-là.
Oui, voilà, la prochaine, la suivante, le 11 avril. Donc il y aura deux ouvrages mis au programme ce jour-là exceptionnellement. Le premier, c'est Un cœur simple de Gustave Flaubert, donc un classique. Mais là, le petit clin d'œil, c'est un partenariat avec le Ciné-Club Mandois qui fait une projection de ce film tiré de cette nouvelle, le 16 avril à 20h15. Et donc, c'est l'occasion de mettre en regard deux façons mais de raconter un même roman. Et puis, le deuxième, ce jour-là, c'est Les Pays de Marie-Hélène Lafon, qui... L'idée, c'est de préparer un peu la venue de cet auteur, car, voilà, j'ai une petite exclue, le mardi 7 mai, en fait, elle est attendue à Mende pour des dédicaces et surtout, et ça, c'est trop sympa, un repas littéraire. Donc, il faut s'inscrire à la bibliothèque et donc, on dînera. Alors, le programme n'est pas encore totalement fixé.
Et on mangera quoi ? Des lasagnes ?
Voilà, c'est ce que je dis. Le programme n'est pas encore totalement fixé.
Le menu.
Le menu et le programme, en fait. Parce que, sans doute, ce sera des lectures en regard de différents plats, peut-être plusieurs d'elles, peut-être des lectures en regard de la gastronomie. Voilà, tout est inventé. Donc, en tout cas, moi, j'ai bien envie de participer. Donc, je pense que je vais m'inscrire à la bibliothèque et je vous invite à en faire autant.
Et concernant donc la réunion cet après-midi sur Peste et le choléra, tu vas y participer ou tu ne pourras pas ?
Bah non, effectivement, c'est pour ça que je tenais à faire ma chronique sur cet ouvrage, pour apporter ma petite pierre à l'édifice, mais non, effectivement, 14h30.
D'accord. Et en fait, donc le but de cette réunion, c'est effectivement de parler sur ce livre. Donc, il vaut mieux l'avoir lu pour venir ou...
Non, on n'est pas obligé de l'avoir lu parce que ça peut donner envie aussi parfois d'aller vers des romans qu'on n'aurait pas forcément envie de lire, en fonction de ce que les autres en diront. Quoi. C'est aussi ça, la lecture. Il y a aussi, c'est un plaisir à la fois solitaire et en même temps qu'on peut partager.
On partage, voilà, c'est ça, ensemble.
Bon, et donc tu nous conseilles justement de lire ce livre.
Ah, mais je vous conseille de lire tous les livres et d'en parler d'une manière générale. Après, Peste et choléra, c'était un très bon choix. Effectivement, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai appris plein de trucs.
Bon, bah Guillaume, la prochaine fois.
Ouais, là, le problème, c'est que la table de nuit ne va pas être suffisamment grande. Hein,
bah, t'en rachètes une autre.
Bon, il faudrait surtout que je trouve du temps, ça serait peut-être mieux.
Hein. Oh, bah la nuit.
Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme extrait musical pour cette petite pause qui va se profiler ?
Eh bien, comme on était dans les maladies, je me suis dit que j'allais vous passer Anaïs, peut-être une angine.
Ah bah voilà, comme ça au moins on reste dans le médical. Et donc on se retrouve tout de suite après les lasagnes, hein, c'est le sujet suivant.
C'est Guillaume qui a choisi de nous parler cuisine, hein, on tient à le dire.
Et donc bah voilà, d'ici là, on écoute Anaïs.
Je sais en vain de penser à autre chose que toi.
elle
et lui.
Bon alors, Anne-Marie a la bouche pleine parce qu'elle est en train de goûter les lasagnes, donc c'est moi qui m'y colle. Guillaume, tu vas nous parler de lasagnes aujourd'hui ?
Oui, bah c'est quand même, faut quand même dire que c'est la deuxième partie d'Actuel et lui quand même. Mais effectivement, je vais parler de lasagnes aujourd'hui.
Au cheval ?
Mais non, justement, parce que bah, effectivement, on a beaucoup entendu parler de lasagnes ces dernières semaines suite à ce scandale de viande de cheval dans les lasagnes Findus. Mais bah, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler de façon un petit peu plus positive, parce que bah, c'est un plat que j'aime bien, hein, c'est un plat que nous avons dégusté grâce à Aurélie et que Anne-Marie est toujours en train de manger.
C'est pas voilà. Vrai, j'ai la bouche fine.
Tout va bien. Mais c'est un plat aussi qui finalement colle bien cette saison où il fait froid et on a bien envie de se réchauffer avec quelque chose qui tient au corps. Hein. C'est pas sans être forcément lourd, mais c'est voilà.
Oui, c'est pas léger, on est d'accord.
C'est pas tout à fait un plat d'été.
Puis c'est un plat familial aussi.
Voilà, oui. Ouais,
un partagé, la preuve.
Voilà, on entend les petits bruits de fourchette, tout va bien. mais voilà, et puis aussi, bah, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'il y a un nouveau restaurant à Mende qui propose des lasagnes, donc c'était aussi l'occasion de faire un petit clin d'œil. Je ne ferai pas de pub comme Aurélie pour les amis de la bibliothèque, mais voilà, simplement dire que voilà,
c'est une association.
Oui, c'est ça. C'est un plat qui fait envie et voilà, dont j'avais envie de parler aujourd'hui.
D'accord, mais alors les lasagnes, c'est quoi ?
Alors, si on prend le site internet de Larousse, hein, on va prendre la définition, on va aller au fondement même. Ça dit pâte italienne en ruban, disposée en couches alternées avec un hachis de viande nappé de sauce et gratiné. Alors, je suis relativement d'accord, simplement le viande m'embête un peu, puisque... Bon, on le verra tout à l'heure, dans les garnitures, il peut aussi y avoir tout à fait du poisson et pas du tout de viande. Donc...
Et peut-être qu'à la base, effectivement, oui, les lasagnes, voilà. C'était composé justement avec de la viande.
Tout à fait. Alors bon, je me suis renseigné sur la référence du web, hein, bien entendu, Wikipédia.
Et quelle référence ?
Vous avez vu, aujourd'hui, on cite bien tous les sources. Hein. On fait bien attention.
Et donc, Wikipédia nous donne une définition un petit peu plus complète, enfin un peu plus développée en tous les cas. Lasagne, pâte alimentaire en forme de large plaque. Il s'agit également de la préparation utilisant ces mêmes pâtes, généralement faites de couches alternées de pâtes de fromage, d'une sauce tomate avec de la viande, avec sauce béchamel. Elles sont d'origine italienne, notamment de Bologne. Donc voilà, on connaît la ville de Bologne. Alors le mot italien lasagna est dérivé du grec ancien lasana, hein, je pense qu'il faut prononcer ça comme ça, qui signifie trépied de cuisine. Ce mot fut ensuite employé par les Romains pour désigner le récipient de cuisson, le lasanum. Et les Italiens employèrent ensuite le mot pour désigner ce plat dans lequel les lasagnes étaient faites. Et maintenant, le mot lasagna, lasagne au pluriel, ne désigne plus que la préparation.
Voilà. Finalement, c'est un plat qui ne date pas d'aujourd'hui.
Et non, puisque les premières références aux lasagnes datent du XIIIe siècle. Et donc, les recettes de cette époque n'utilisaient bien entendu pas de tomates, puisqu'elles étaient inconnues en Europe.
Donc, alors, c'est de la bolognaise sans tomates, si je comprends bien.
Voilà, c'est ça qui...
Pour nous, c'est inconcevable.
C'est assez... Enfin, voilà, donc il faudrait remonter un petit peu peut-être dans les traces qu'on pourrait retrouver pour savoir comment étaient fabriquées ces lasagnes du XIIIe siècle et savoir quel était justement ce qui faisait la sauce aussi, puisque c'est quand même la oui. Tomate qui est un élément assez fort de la sauce dans le plat classique, on va dire.
Puis quelle viande aussi y mettait ? C'était peut-être du gibier à l'époque, c'était pas forcément...
Nous allons peut-être du cheval hein, aussi.
Peut-être du cheval.
Donc je crois qu'il faut que les historiens travaillent et puis on fera un droit de suite hein, si on a des réponses. Mais voilà, après on peut aussi, dans une culture tout à fait beaucoup plus récente et beaucoup plus populaire, parler que de Garfield, qui est vous savez,
le petit chat
de bande dessinée, dont les lasagnes sont aussi un de ses plats préférés.
Oui, parmi les pizzas, je crois.
Oui, voilà, non, mais voilà, il est un peu italien voilà. dans ses goûts. Voilà.
Alimentaire.
C'est ça.
Pas très light, hein, à chaque fois.
Non, pas du tout.
C'est pas de la salade.
En même temps, voilà, c'est un chat.
C'est un chat.
Donc, le principe de la recette ? Comment on fait des lasagnes ?
Alors, comment on fait des lasagnes ? Déjà,
enfin, comment toi, tu fais des lasagnes ? Oui, je te dirai après moi comment
je
les fais.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ça.
Chacun, il va y aller de sa recette.
Effectivement, puisque c'est Aurélie qui a préparé les lasagnes que nous avons dégustées ce midi, elle a une recette qui est différente de la mienne, mais d'ailleurs, simplement...
excellent.
Oui, c'est excellent.
Il faudra qu'on déguste tes lasagnes.
Voilà. C'est excellent, dit-elle, avec une fourchette
à la main.
Voilà. Donc, les ingrédients, mais ça, je pense que c'est à peu près valable... pour tout le monde. C'est donc des pâtes à lasagne qu'on peut fabriquer. Alors ça, si vous aimez faire fabriquer des pâtes, ça c'est possible. Mais bon, si vous voulez être un petit peu, enfin, si vous voulez que ça soit un petit peu
plus facile, vous pouvez les
acheter. Mais il y a finalement un peu deux types de lasagnes qui sont dans le commerce, et notamment certaines qui, pour lesquelles il est impératif de les cuire préalablement avant de les mettre en place dans le plat, et d'autres qui n'ont pas besoin de cette pré-cuisson.
Ah, moi, je pré-cuis toujours. Je blanchis toujours mes plaques de lasagne al dente avant de les mettre dedans.
La grosse différence de nos deux recettes.
Voilà. Du coup, le résultat si bah, avec cette pré-cuisson.
Eh bien, moi, je trouve que c'est plus moelleux qu'on obtient.
Oui, sans doute. Mais après, ça permet aussi de faire des lasagnes avec moins de sauce, puisque c'est la sauce qui permet de la cuisson dans les modes sans cuisson préalable. Et donc, effectivement, ça nécessite qu'il y ait un petit peu plus de liquide.
Et puis, effectivement, vous avez constaté que moi, la sauce tomate, j'aime pas ça. Donc, du coup, je suis très light sur la sauce tomate.
Voilà.
Et d'où la pré-cuisson.
Bon, alors on va pas forcément tout vous raconter de ce qu'on a mangé, ce qu'on a dégusté, mais parce que sinon, vous auriez envie d'être avec nous.
Oui, puis on a
nous.
Bu aussi. Enfin, on a accompagné les lasagnes.
Alors, dans les autres ingrédients, bon, parce que la pâte à lasagne toute seule, ça va pas faire grand-chose. C'est évidemment de la sauce béchamel, donc ça c'est un des ingrédients qui est aussi raccord dans toutes les recettes possibles de lasagne. Du fromage, ça c'est aussi important pour le gratiner du dessus, mais aussi...
Oui, mais c'est un grand débat ça aussi, le fromage.
Quel type de fromage c'est?
Alors, parmesan ou gruyère émental, Guillaume?
Moi je suis plutôt émental, mais...
Voilà, moi je reste fidèle au parmesan.
Et oui, voilà, mais ça voilà. C'est effectivement petit...
Chacun ses goûts.
Chacun ses goûts. Et puis bien sûr une garniture, et la garniture elle peut être très très différente, on en reparlera dans quelques instants.
Alors ensuite, puisque c'est le montage qui fait tout, comment tu fais ça, déjà
il faut un peu de cuisine, ça prend un peu de temps de faire des lasagnes, il faut finalement cuisiner la garniture d'un côté, donc préparer un petit peu la viande, la sauce ou le poisson et la sauce qui va avec d'un côté. Et puis préparer la sauce béchamel, donc en étant, voilà, il faut maîtriser la sauce béchamel. Bon, c'est quand même pas si difficile que ça non plus, mais voilà, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et puis après, il y a effectivement la grande partie de la lasagne qui est l'assemblage. Et donc il faut le premier élément, c'est le plat. Il faut déjà un plat à bord haut. Pour pouvoir monter le plus possible la lasagne. Plus le plat sera haut, plus il y aura de couches et justement de pâtes, finalement. C'est bien d'huiler le plat parce que ça permet de plus facilement les démouler, mais bon, vu que les produits qui sont à l'intérieur sont relativement riches, normalement, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Et puis après, on commence. Première couche de béchamel, couche de pâte à lasagne, une couche de garniture, de la béchamel avec du fromage, voilà, ou pas, selon, ça c'est au choix. Et puis on recommence, deuxième couche de pâte à lasagne, deuxième couche de garniture, de la béchamel, plus du fromage, etc., etc., jusqu'à monter jusqu'en haut et finir avec du fromage pour que ça gratine bien. Et puis, après 20-30 minutes au four à 200 degrés, et il ne reste plus qu'à déguster.
On se croirait dans l'émission Top Chef, là.
Par rapport à Top Chef, c'est que le problème de la lasagne, c'est que c'est jamais très, très,
très joli.
Très, très joli. C'est jamais très, très facile à servir. Et par rapport ça supporte assez mal la comparaison, justement, avec Top Chef et ses magnifiques assiettes qui sont souvent proposées à la dégustation.
On avait de très belles assiettes aujourd'hui.
Nous avions de très belles assiettes dans une forme de triangle arrondi, mais Après, c'est vrai que la part est toujours un peu difficile à couper, oui. à servir.
C'est vrai que dans un restaurant gastronomique, c'est un petit peu plus compliqué de servir des lasagnes.
Voilà, donc. C'est vraiment le point faible des lasagnes, c'est la façon dont on les sert. Oui. C'est un plat familial, un plat convivial, mais c'est un peu toujours galère pour ne pas renverser totalement la lasagne en la servant dans l'assiette. Enfin, voilà.
Et justement, au niveau des couches, tu nous en parlais, est-ce que généralement on se fixe 4 ou 5 couches ou c'est vraiment aléatoire?
C'est tant que le plat laisse la place, on avance. Hein. Le but, c'est que de toute façon, c'est un plat.
C'est une marmite, on y va.
C'est un plat généreux, donc le but, c'est effectivement, si le plat fait 30 cm de hauteur, on va peut-être s'arrêter un peu en route, mais voilà, l'idée, c'est aussi qu'il y ait quand même plusieurs couches, et c'est vrai que c'est jamais très facile d'avoir une garniture très fine non plus, donc ça veut dire que forcément, les couches ont quand même une épaisseur minimum à respecter.
Et justement, dans les garnitures, alors, ton coup de cœur.
Finalement, toutes les associations sont possibles. Ça, je crois qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Alors, le très classique, c'est la tomate, la viande de bœuf, avec parfois des champignons, parfois des olives, parfois des courgettes. On peut finalement faire un peu ce qu'on veut avec cette base-là. Et puis, grand classique, c'est saumon poireau ou saumon épinard, donc voilà qui change un peu, qui est une autre façon, donc un peu comme les pizzas, vous avez des pizzas rouges donc à la sauce tomate, et puis là plutôt des lasagnes blanches qui sont oui. plutôt avec une base de crème pour ces préparations. Voilà, moi j'utilise pour la garniture des tomates en boîte l'hiver parce que ça permet de c'est adapté pour la cuisine, c'est facile oui. à faire et voilà, et c'est relativement simple.
Moi aussi, hein, tomate pelée, voilà, effectivement.
Et voilà, parce que c'est vrai que l'été, on peut s'amuser à être avec des vraies tomates parce qu'elles sont, voilà, oui. un tarif plus
oui, c'est ça, puis l'hiver, effectivement, voilà. Les tomates.
Et puis le goût. Voilà.
Voilà, c'est ça qui est important aussi. Voilà, donc on choisit viande ou poisson. Moi, des fois, je fais aussi des poissons blancs type colin avec des épinards ou des choses comme ça qui sont un peu différentes, qui ont parfois peut-être un petit peu moins de peps, mais qui sont aussi sympathiques. Mmh. Ça permet finalement de se dire voilà, j'ai différents aliments et j'essaye de faire un truc sympa. Ce qui est assez pratique, malgré tout, dans ces ingrédients, c'est que c'est beaucoup d'ingrédients qu'on peut avoir en stock à la maison.
Oui.
Et ça, c'est vrai que c'est l'occasion. On peut très vite se dire, allez, on a des gens qui viennent un peu à l'improviste. Bon, il faut quand même le temps de le préparer. Mais ça ne nécessite pas forcément d'aller refaire des courses. Voilà, si on a des steaks hachés au congèle, si on a une boîte de tomates, on est capable de faire ses lasagnes. Pareil, si on a 2-3 bouts de poisson et un peu de... Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez simple, moi, je trouve, à faire de façon classique. Et alors, effectivement, viande ou poisson, mais aussi végétarien, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait possible avec les lasagnes. On peut faire un peu ce qu'on veut et là, jouer sur un certain nombre d'ingrédients. Voilà, donc après, y a plein de solutions possibles. Vous pouvez découvrir les propositions du restaurant Mandois qui en propose plein, mais voilà, c'est toujours sympathique de découvrir tout ça.
Alors, celle que je vous ai faite, quand même, pour info, c'était un tiers de viande de porc, un tiers de viande de bœuf et un tiers de charcuterie.
Enfin, ça, c'est ce que tu dis, hein, on n'a pas été vérifié.
Si, si, parce que justement, j'ai été chercher ma viande, je l'ai coupée au couteau. Et en ça, je suis la recette d'une Italienne qui s'appelle Laura Zavan. Elle a un super site internet. Elle sort plein de bouquins de cuisine qui sont toujours géniaux. Et elle a aussi, justement, tu parlais d'épinards, une recette de pâte verte.
Oui,
aussi,
tout à fait, effectivement.
Qui est très sympa.
Oui, c'est aussi une des possibilités, effectivement, de fabriquer des pâtes et d'avoir, effectivement, tout à fait de changer aussi.
Voilà.
Bon, voilà.
Bon appétit.
Bon appétit. Hein,
quand même. Et puis, on a peut-être, aujourd'hui, on peut peut-être les mettre un peu au goût du jour, par exemple, la présentation.
Mais oui, en fait, en préparant cette émission, je me suis amusé à me dire qu'effectivement, il y avait ce problème de la présentation. Et en lisant tout ça, il y a plein de sites aussi consacrés aux lasagnes, avec des recettes différentes, avec justement des propositions de garnitures diverses et variées. Et donc le site Miam Addict proposait...
Oh, je vais l'aimer celui-là, Miam Addict
propose des mini lasagnes apéritives. Donc, là, il faut faire cuire les pâtes d'abord et ensuite les couper pour faire une espèce de petite bouchée finalement qui est cuite ensuite dans un moule à muffins qu'on remplit un peu de garniture et qui fait une forme d'apéritif un peu original. C'est vrai qu'on n'a pas souvent vu ça. Alors, je n'ai pas testé, mais je vous incite à y aller.
Pour la prochaine émission,
on veut bien tester.
Mais en tous les cas, vous avez une photo sur la table et effectivement, ça a l'air sympathique. Voilà.
D'accord. Et dans toutes tes recherches, tu as trouvé aussi des recettes sucrées ?
Oui, des lasagnes sucrées, effectivement, mais je n'ai pas testé là non plus. Mais je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, garniture pomme cannelle, poire chocolat. Il y en avait des très, très appétissantes qui étaient au biscuit rose de Reims avec des pralines. Bon, ça avait l'air très, très sanguinolent au rendu final, mais ça avait l'air particulièrement bon. J'ai aussi lu de la myrtille et du fromage blanc. Enfin bon, donc là, il y a plein de possibilités. Souvent, la béchamel est remplacée par de la crème. Ou parfois aussi des préparations plus complexes qui relèvent plutôt du flan ou de ce genre de choses.
Mais ça doit faire quand même bizarre. C'est vrai qu'on est tellement habitué au salé. Du coup, on reprend les mêmes pâtes que pour le salé.
Ah oui, c'est les pâtes classiques. Mais par contre, étant donné qu'il y a sans doute beaucoup moins de liquide, la pré-cuisson est dans toutes les recettes que j'ai vues sur Internet. Voilà.
D'accord. Et puis en fait, on peut dire aussi qu'avec ce plat, c'est un plat familial et c'est pas forcément un plat non plus très cher. En fait, avec un petit budget, on peut faire quelque chose de très bon finalement.
Oui, ça peut faire un très beau plat sur une table, effectivement. Et c'est sympa à faire. Moi, je trouve que c'est assez ludique finalement de se dire on empile nos petites.
Oui, c'est ça. Même les enfants peuvent cuisiner des lasagnes.
Le montage après.
Voilà, il faut cuisiner un peu la garniture à la poêle ou dans une sauteuse à côté. Et après, il faut construire. Et c'est ça qui est sympathique. C'est vrai que beaucoup de gens vont consommer des lasagnes toutes faites. Et donc, on a vu les scandales qu'il y a eu. Mais c'est vrai que c'est aussi un plat sympa à faire soi-même, qui n'est pas très compliqué à faire. Et donc, à déguster avec plaisir.
Parfait, merci. Et alors, tu nous proposes d'écouter quoi avec ce thème sur les lasagnes ?
Eh bien, je vous propose de rester dans l'Italie et d'aller faire un voyage en Italie avec Lily Cube.
Faire une virée à deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, un catinini. Et va la nave, et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso. S'en aller au matin, boire un dernier martini, et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, s'en ira toute la vie danser le calme.
Actu,
elle
et lui. Et on se retrouve sur 48FM pour la troisième partie de Actuel et lui, avec maintenant Anne-Marie qui va nous parler de musique et de sorties musicales.
Voilà, et là je vais commencer par une petite devinette. Connaissez-vous le point commun entre tous ces tubes de la chanson française ? Il tape sur des bambous, Petite fille du soleil, Mademoiselle chante le blues ou encore On va s'aimer.
T'aurais pu les faire en chantant ouais, quand même.
J'y ai pensé, mais bon, comme il fait beau, je voulais pas
si tu chantes
amener
pas,
la
toi,
pluie
je reconnais
cet
pas.
Après-midi.
Oui, alors, il fait beau, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est enregistré.
Donc, Amande, si...
il fait toujours beau. Voilà, ça c'est fait.
Nous
ça,
sommes dans le sud. Notre... Donc bref, Mademoiselle chante le blues, Les mariés de Vendée, ça vous dit quelque chose ? Y a-t-il un point commun entre toutes ces chansons ?
C'est vieux.
Mis à part ça ?
Je sais pas. Joker.
Guillaume, Joker aussi.
Mais c'est peut-être un même auteur.
Allez, ben oui, bien sûr, ces chansons qui ont bercé notre enfance, ou bien qui nous ont fait danser sur des pistes endiablées. Et oui, Aurélie, sûrement tu as dansé sur ces tubes-là. Eh bien, toutes ces chansons ont été composées par un seul et même homme, c'est Didier Barbelivien. Souvent moqué, parfois imité, voire caricaturé, il n'en reste pas moins un auteur très prolixe.
Mais pourquoi tu nous parles de lui ? Il n'est pas encore à la retraite ?
Et pourquoi pas ? Puisqu'il y a aussi des auditeurs qui ont peut-être plus de 50 ans, voire des auditeurs qui ont dans nos âges, 25, 30 ans, 35, et puis qui apprécient. Et puis c'est surtout qu'à 59 ans, ce faiseur de succès n'a rien perdu de son talent. Il revient sur le devant de la scène avec son album intitulé « Dédicacé », sorti dans les bacs le 4 mars dernier. À travers 15 chansons, il rend hommage aux artistes qu'il apprécie et parfois qu'il a tant admiré, comme Claude François, Michel Sardou, Julio Iglesias ou encore Johnny Hallyday. C'est donc un bel hommage nostalgique qui devrait ravir son public fidèle.
Alors tu nous proposes d'écouter un extrait ?
Justement, voilà un extrait du titre dédié à Clo-Clo, Tant qu'il y aura des hommes.
Je crois que t'as bugué. Donc, vas-y, on refait le titre.
Donc, tu nous proposes d'écouter un extrait de cet album ?
Oui, donc c'est un titre dédié à Clo-Clo, Tant qu'il y aura des chansons.
C'est parti.
Des chansons qui parlaient d'une plage au soleil, quelques mots en anglais, est-ce que tu t'en rappelles? Elle nous accompagnait le temps d'un disque d'or, bien des années après, je m'en souviens encore. Il y aura des chansons, je chanterai pour toi. Mon amour, ma passion, je mettrai dans ma voix des trésors d'émotions pour te dire ces mots-là. Tant qu'il y aura des chansons, tu seras dans mes bras pour danser tout au long de la nuit qui viendra. Sur un lit de violon, je chanterai pour toi.
Et donc, pour la petite anecdote, dans cet album, il évoque la Lozère. Donc, à travers la chanson « Les héros de juillet », donc je vais vous citer cette phrase. « Je viens de là, de cette enfance de Lozère, de Loire-Atlantique, que traversait le Tour de France et sa caravane héroïque. » Donc voilà, c'est un petit tour, un petit clin d'œil au Tour de France et aussi à la Lozère.
Et oui, puisqu'il est, il a sa famille en Lozère et qu'il est venu aussi l'été dernier pour chanter à Aumont-Aubrac et qu'il avait justement...
Rempli la salle
en très peu de temps, je crois. Donc finalement, le succès est toujours là, même si encore une fois il est moqué. C'est vrai que les gens l'apprécient.
Alors, c'est peut-être un album très masculin.
Effectivement, petit bémol avec des chansons dédicacées uniquement à des hommes, mais Didier Barbelivien l'a promis, la prochaine fois, il composera un album rendant hommage uniquement aux femmes. Nous voilà, Aurélie et moi, plutôt rassurés.
Oui.
Bon, maintenant, un grand écart, on va changer d'artiste et on va parler de l'interprète du fameux « Sensualité ».
Exactement, continuons cette chronique avec la plus belge des Françaises, à savoir Axel Red, qui a sorti il y a peu un nouvel album, le 9e, intitulé « Rouge ardent ». Cet opus marque le retour aux premiers amours pop-soul de l'artiste. Donc d'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait de son album intitulé « C'est une ville ».
C'est une ville que tu connais. On peut s'y asseoir sur le bord du quai. Voir les vagues venir et s'en aller. Rester des heures et des heures, attendre que passe le bonheur. C'est une ville que tu connais.
Donc les 10 chansons parlent d'amour avec une thématique pas forcément très gaie. Axel Red l'explique hein, sur le site de RFI Musique. Hein, alors toujours, voilà,
nos références.
Aujourd'hui, les sources sont citées. Les sites sont sourcés.
Aussi.
On n'aurait pas dû autant
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, je cite Axel Red. « Je me suis inspirée d'Into the Wild qui m'a bouleversée pour prendre le point de vue de la petite amie, celle dont on ne parle pas dans le film et qui voit son amour d'enfance partir. Mais il ne part pas pour elle, ni pour une autre. Ce personnage est un grand égoïste. Il ne partage rien, prend et ne donne rien en retour. Je voulais décrire tout cela dans les chansons et garder un fil narratif entre elles. » Donc, pour rappel, dans Into the Wild, hein, le film de Sean Penn, Christopher, 22 ans, prend la route en laissant tout derrière lui, sa famille, ses amis et donc sa vie matérialiste. Dans les textes de l'album d'inspiration purement romantique, cette mélancolie est ressentie. La séparation, la souffrance, le manque sont évoqués au fil des chansons. Alors, quelques citations. « Que s'est-il passé de nos journées de lumière ? Ne reste que des ombres et des pierres » dans la chanson « Sur la route sablée ». Ou encore « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je me le répète chaque jour, du mieux que je peux. » Passage extrait de la chanson « De mieux en mieux ». Donc, on sent que ça ne va pas forcément très fort. Mais les paroles poignantes contrastent avec des musiques douces et rythmées qui mettent en valeur, je trouve pour une fois, la jolie voix d'Axel Red.
Donc, c'est un bon album.
Oui, disons que j'avais envie de vous parler de cet album car j'ai vraiment eu un coup de cœur, en tout cas pour le titre éponyme qui passe en ce moment à la radio. L'album est donc agréable à écouter. Pour preuve, Rouge Ardent est numéro 1 dès sa sortie en Belgique et rapidement disque d'or. Il se pourrait qu'en France, il soit aussi synonyme de succès, ce qui ferait oublier les flops de la chanteuse, comme avec son opus sorti en 2011, Un cœur comme le mien, un opus passé complètement inaperçu. Je ne pourrais même pas vous citer d'ailleurs une chanson de cet album. Donc qu'on se le dise, Rouge Ardent fait la fierté d'Axel Red. Je la cite. « J'ai fait des albums parfois spéciaux, comme Face A et Face B très disco, qui a déçu une partie du public. Mais au final, je dirais que Rouge Ardent est peut-être mon préféré avec Jardin Secret. La réussite de cet album est due en partie à son équipe de compositeurs talentueux, tels que Christopher Miossec ou encore Gérard Mancet, celui-là même qui avait écrit avec le regretté Alain Bachung l'album Bleu Pétrole. Donc voilà, souhaitons à Rouge Ardent de connaître le même triomphe que celui de Bleu Pétrole.
Bon, peut-être pour terminer cette évocation des sorties musicales, peut-être un petit tour d'horizon de ce qui se propose en ce moment.
Alors, je ne sais pas si c'est dû au retour du printemps, mais les sorties d'albums bourgeonnent en ce moment. Et c'est tant mieux, l'excellente Zazie va nous proposer son opus Cyclo le 18 mars. Ce dernier est présenté comme le plus naturel et le plus physique des disques de Zazie, donc plutôt prometteur. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent retrouver son clip sur Internet et nous vous proposons tout de suite d'écouter un extrait de sa chanson Cyclo.
Tout
Tandis que David Bowie a sorti il y a quelques jours son Next Day, Depeche Mode revient avec Delta Machine. Les groupies des beaux gosses retrouveront quant à elles les CD de Justin Timberlake et de Christophe Maé. Et sinon, le 1er avril, et promis, là, ce n'est pas un poisson, l'ancienne première dame de France, alors non pas Bernadette Chirac, mais Carla Bruni-Sarkozy, eh bien, elle va nous proposer son Little French Songs, un exutoire dans lequel elle règle ses comptes avec la presse. Quelqu'un m'a dit qu'elle va le faire sûrement beaucoup de bruit.
Mais c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un CD de Bernadette Chirac. Moi, j'aurais aimé. peut-être pour aussi parler d'autres sorties et justement dans le caritatif, parce que Bernadette Chirac est quand même très associée à l'opération Pièce Jaune. Il y a l'album des Enfoirés qui est sorti et donc on peut découvrir aussi, qui est l'occasion d'écouter de la musique, des reprises, des chansons originales aussi.
Et de faire un geste.
Et de faire un geste pour soutenir les Restos du Cœur. Donc c'est aussi une bonne façon d'écouter de la musique.
Tout à fait. Aurélie, tu as quelque chose à nous dire concernant la musique ?
Ben moi, j'étais assez contente de retrouver David Bowie après 10 ans d'absence. D'ailleurs, quand tu m'as dit que tu allais parler musique, je me suis dit « Waouh, tu vas nous parler de David Bowie ». Et après, non, tu m'as bien mis les choses au clair. Musique française. Donc voilà.
Ah,
Didier
Barbelivien.
Voilà, dans deux semaines, tu peux nous parler de David Bowie dans deux semaines. Hein.
Didier Barbelivien. Ah oui, Didier Barbelivien.
Ah oui, elle a bien suivi. Hein. Elle était complètement endormie pendant la chronique.
Elle boit son petit rosé, là. Puis elle écoute pas du tout nos chroniques, c'est sympa. Allez, vas-y, Aurélie, finis la bouteille. Non, tu passes pas pour une alcoolo à l'antenne. C'est pas grave. Oui, donc nous avons parlé de Didier Barbelivien, d'Axel Red, de Bernadette Chirac aussi.
Bon, et alors, Anne-Marie, quel est le CD que tu écoutes le plus en ce moment, parmi tout ce que tu nous as proposé ?
Eh bien, je dois dire que... j'écoute plutôt le dernier album d'Olivia Ruiz, qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais effectivement en janvier. Donc là, c'était quand même beaucoup trop tard pour en parler. Voilà, sinon j'aime bien écouter aussi les musiques que vous nous proposez sur 48FM.
Merci.
Et juste avant de se quitter, on va peut-être écouter Rouge Ardent, le titre d'Axel Red. C'est parti.
Oh, je danse encore de temps en temps dans ma robe bleue à franges. Les rues murmurent encore ton nom. Est-ce bien étrange? As-tu trouvé dans les feux, dans les flammes, ton idéal rouge ardent? As-tu froid? As-tu peur de l'orage? Tu disais
Oui, je passe encore devant chez Jean. Mais je n'ose pas entrer. Nos amis y sont, je les entends. Il y a trop de cœurs gravés. As-tu trouvé loin des villes, loin des larmes, ton idéal?
Merci, c'est donc merci Anne-Marie pour cette chronique, merci Aurélie pour cette évocation de maladie et surtout d'un très bel ouvrage biographique. C'était la proposition d'Aurélie. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'on est un peu fatigué. Sans doute que les
merci Guillaume en tout cas de nous avoir parlé des lasagnes.
Voilà, ça nous a donné faim. Tu avais bien choisi.
Ça nous a permis d'en manger. Cette émission ne ressemble à peu près à rien. Mais...
à différentes couches voilà. En fait, chronique.
Merci de votre écoute et à très bientôt. N'hésitez pas à commenter cette émission sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez les photos de notre émission sur le Facebook. Et puis, vous pouvez aussi proposer vos recettes de lasagne si vous n'êtes pas d'accord avec les deux recettes que nous avons proposées, en tous les cas, les deux visions de la fabrication des lasagnes ou vos garnitures préférées, vos solutions en lasagne sucrée, etc. N'hésitez pas à nous poster des petits messages sur Facebook.
Voir des photos si vous arrivez à bien présenter effectivement un plat de lasagne. Si vous avez envie de nous montrer ça, pourquoi pas.
Voilà, et donc je ne sais pas quel sera le plat de la prochaine fois, mais on en découvrira un. Donc rendez-vous dans 15 jours pour le nouveau numéro d'Actuel et Lui, et ce numéro sera rediffusé mardi à 18h11. Bonne journée sur 48FM.
Au revoir Guillaume.
Au revoir. Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle.
Et lui.
Elle.
Lui.
D'Actuel.
Et lui. Oh.